débat africain, Madeleine Mukamabano.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat consacré à la politique africaine des États-Unis. Lors de son discours à Accra en 2009, Barack Obama avait défini les grands axes de sa politique africaine. Mais depuis un an, cette politique est peu visible et l'Afrique ne semble pas faire partie des priorités de Washington. Aussi, la rencontre la semaine dernière entre l'Union africaine et l'administration Obama est considérée par certains analystes comme le retour des États-Unis en Afrique. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Doudou Diagne, vice-président de l'Institut international de politique des civilisations, un institut créé par le professeur Edgar Morin, Albert Bourgi, professeur des universités, il enseigne les relations internationales à l'Université de Reims, Christopher Faumonieux, directeur régional Afrique à l'Institut national démocratique, une organisation non gouvernementale basée à Washington, et Yves Kouamaïso, économiste, directeur du think tank Afrologie. Monsieur, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. La rencontre qui a eu lieu la semaine dernière du 21 au 23 avril entre la commission de l'Union africaine présidée par Xi Jinping et l'administration Obama était une première et elle a suscité pas mal de commentaires et les gens estiment qu'aujourd'hui peut-être Washington commence vraiment à s'intéresser à l'Afrique, que l'administration Obama, qui semble avoir négligé l'Afrique pendant un an, s'y intéresse à nouveau. Christopher Faumonieux, après tout, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une spécificité de la politique africaine d'Obama ? Est-ce qu'elle existe ?
Je dirais que oui, surtout que cette rencontre de haut niveau entre l'Union africaine et le gouvernement américain, c'était vraiment la première du genre. Et c'est la première fois que ça se tient avec des attentes à ce que ça se renouvelle chaque année. Mais il faut aussi avouer que le discours de Barack Obama à Accra, un discours qui avait soulevé beaucoup d'intérêt et beaucoup d'enthousiasme, a été éclipsé pendant la dernière année par la politique interne, l'économie et les questions
de la gestion de la crise, oui.
Tout à fait.
Et donc, pour vous, cette rencontre, ça marque un tournant ou...
Je crois que ça marque non pas un tournant, mais un processus d'affirmation. Parce que je crois que le président Barack Obama voudrait démontrer aux Africains que l'Afrique reste une priorité et que même si, pour l'instant, on attend encore des résultats concrets, il envisage quand même de marquer son saut sur ses relations pendant son mandat présidentiel.
Oui, parce qu'il commençait à y avoir un peu de grogne Albert Bourgi.
Si vous voulez, globalement, bien sûr, je partage l'avis selon lequel l'administration Obama porte un intérêt à l'Afrique. C'est vrai, un peu dans le prolongement du discours de l'an dernier à Accra, qui était un discours extrêmement intéressant, mais qui s'inscrivait quand même dans la continuité, disons, des discours qui étaient tenus par l'administration américaine depuis une quinzaine d'années. Évidemment, pas Bush particulièrement, mais à l'époque de Clinton. Donc, si vous voulez, de ce côté-là, il n'y avait pas de véritables innovations. En revanche, la réunion récente entre l'administration Obama et l'Union africaine, c'est vrai, est une innovation en tant que telle, c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu auparavant, mais même si l'administration américaine a toujours pris la précaution, par exemple, d'envoyer un représentant d'un niveau assez élevé à toutes les réunions au sommet de l'Union africaine, avant cela de l'Organisation de l'Unité africaine, c'était là quand même une façon peut-être aussi de signaler, ou tout au moins de montrer que l'administration Obama s'inscrivait désormais dans un cadre multilatéral. Et il me semble que c'est là peut-être, à mon sens, la signification la plus importante, en tout cas, de la récente réunion.
Donc, en fait, à vous écouter, ceux qui saluent, selon, un retour sur le continent, se trompent, c'est plutôt une inscription de la politique africaine des États-Unis dans la politique étrangère générale.
Non, je ne crois pas qu'il faille dire qu'ils se trompent, mais je pense, si vous voulez, que la politique étrangère américaine, et tout particulièrement la politique africaine, bien évidemment, d'Obama, s'inscrit globalement dans la continuité de la politique américaine, bien sûr, en direction de l'Afrique. Même si, bien sûr aussi, qu'il y a des inflexions qui tiennent à la présence d'Obama à la tête des États-Unis. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Obama président des États-Unis sans que cela change, ne fût-ce que dans la perception, ne fût-ce que dans les modalités de cette politique, ne fût-ce que dans la signification même de cette politique. Je crois que la véritable nouveauté, me semble-t-il, en tout cas c'est vrai de la récente réunion avec l'Union africaine, mais également d'autres, disons, cadres de concertation, c'est que les États-Unis désormais mettent en œuvre leur politique africaine dans des cadres de concertation. On le voit d'ailleurs chaque fois qu'il y a une crise, l'administration américaine, certes, exprime sa position, en particulier lorsqu'il y a des coups d'État, des interruptions, des, disons, anticonstitutionnelles, comme on dit, eh bien les États-Unis expriment leur position, mais adhèrent immédiatement donc aux activités des groupes qui sont mis en place, groupes de contact, groupes internationaux, et oui, encore récemment, par exemple, à propos de la Guinée.
Oui, on va y revenir. Doudou Diène, est-ce que vous partagez ce point de vue qu'il y a une perception particulière ou spéciale de l'Afrique par l'administration Obama? Parce qu'il y a des moments où on a l'impression, quand on regarde ce qui se fait sur le terrain, on se dit finalement, c'est pas très différent de ce que faisait Clinton.
Je serais beaucoup plus critique parce que Obama, l'administration Obama en tout cas, si on parle du discours d'Accra, n'a pas opéré de rupture radicale de manière paradoxale par rapport à la politique américaine avec l'Afrique. Quand on compare la radicalité, la profondeur du discours du Caire vers le monde musulman et arabique, là, il n'y a pas de rupture pour deux raisons. La première, c'est que le discours d'Accra montre que la vision américaine de l'Afrique repose toujours sur les deux mêmes paradigmes. Le premier paradigme, qui est un paradigme occidental, c'est l'unicité de la lecture de l'Afrique comme continent où les problématiques sont la corruption et l'enjeu démocratique, la non-démocratie. Et la réponse qu'Obama a donnée, c'est toujours la même réponse occidentale, c'est-à-dire le traitement de l'Afrique comme la proposition que l'Afrique se comporte en bon élève, à qui on donnera des rétributions s'il se comporte correctement. Et le deuxième, de manière vraiment aussi paradoxale et intéressante, c'est que on s'attendait à ce qu'Obama, plus qu'autre dirigeant, aucun autre dirigeant occidental, saisisse la profondeur historique et culturelle du continent africain, non pas seulement dans les causes de ces problèmes actuels, mais dans la manière dont l'Afrique est en train de s'inscrire dans la dynamique internationale de manière autonome. Mm-hmm. Et là, même sur une question aussi sensible...
Alors, concrètement...
...de la colonisation, le discours d'Obama à Accra était un discours très pauvre et qui manquait de profondeur.
Oui, il était moins profond que celui qu'il a prononcé au Caire. Ça, c'est vrai à propos du monde arabo-musulman. Mais quand vous dites que le discours d'Obama ou le comportement de l'administration Obama manque de profondeur historique, concrètement, vous faites référence à quoi?
Mais je fais référence à ces deux enjeux de l'histoire africaine qui sont extrêmement profonds et importants. C'est l'esclavage, l'enjeu profond et qui est le lien avec le continent américain, mais aussi la colonisation et les pesanteurs politiques, économiques et autres de la colonisation. Obama n'a pas encore proféré une analyse nouvelle, originale, de ces deux enjeux historiques. Et je pense que l'explication qu'il va falloir peut-être qu'on
débatte
aujourd'hui, c'est que Obama n'est pas seul. Tant sur la question vers du monde musulman que la question du Moyen-Orient, que sur la question africaine ou le rapport avec l'Europe, il y a une administration, un establishment à Washington, un establishment qui va au-delà de la Maison-Blanche et où il y a effectivement des pesanteurs idéologiques extrêmement importantes et qui sont bâties sur ces deux paradigmes-là. L'Afrique comme continent à problème, le problème corruption, non-démocratie, et l'autre, le discours de la rétribution. Que l'Afrique se comporte bien, on lui donnera beaucoup plus d'assistance, etc. Donc je pense que là, il n'est pas seul, il n'a pas encore réussi à dégager une vision originale.
Une vision à lui. On va y revenir. Yves Kouamaïso, justement, en général, on dit que ce qui est différent aujourd'hui comparé à la période Bush, c'est que l'administration américaine n'a pas d'idéologie vis-à-vis de l'Afrique.
Non, je ne dirais pas tout à fait ça. Je m'inscrirais plutôt dans la logique de M. Diène avec d'autres arguments. Il n'y a pas eu de rupture et je confirme ce point. Et je rajouterai au point déjà mentionné que, écoutez, l'Afrique est quand même vue comme une variable d'ajustement. Et donc, de ce point de vue, il s'agit de commercer. Et commercer quoi? Des matières premières non transformées, essentiellement le pétrole d'ailleurs. Et de ce point de vue, sincèrement, il n'y a eu aucun changement. y compris dans la Goa, des choses comme ça. Il y a un deuxième problème beaucoup plus profond qui ne me semble pas avoir été dit. J'ai entendu le mot multilatéral, l'Union africaine parle de bilatéral, je crois que les deux sont faux. Il s'agit du bi-régionalisme, une nouvelle approche que je crois définit une nouvelle façon de travailler avec l'Afrique. Une façon bilatérale, parce qu'il s'agit bien d'un État, États-Unis, même fédéré, et une fédération qui va travailler avec tout un continent, 53 États quand même, et qui, du côté africain, un régionalisme, Union africaine, qui peine quand même à donner la subsidiarité en termes de pouvoir à cette commission de l'Union africaine.
Oui, oui, mais Yves Kouamaïso, certains vous disent les États-Unis vont avoir des relations bilatérales avec les pays qui comptent comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, et pour le reste, ils vont passer par le cadre de l'Union africaine.
Disons, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. On l'a rappelé tout à l'heure, ils envoient des grands représentants dans toutes les institutions de l'Union africaine, ce qui est vrai. La réalité, je pense plutôt qu'ils ont un vrai problème d'influence. Et je pense que tout ce système de bi-régionalisme dont je parle pose le problème, bien sûr, de la représentativité de l'Union africaine en tant que telle, mais surtout du pouvoir d'influence. Il y a un certain nombre de choses, on va y revenir, dans le domaine de la paix, et des guerres, des conflits et autres, qui font qu'ils ne sont plus du tout au courant de ce qui se passe sur le terrain. Hein, les satellites ne suffisent plus, leurs agents CIA ne font pas suffisamment leur boulot, et donc il va falloir se repositionner sur des agents africains, si possible, ce qui donne, entre guillemets, la bonne information. Et je pense qu'au niveau politique, c'était peut-être le point d'entrée, au-delà, bien sûr, de la relation réellement bilatérale, c'est-à-dire leurs ambassades qui sont dans chacun de nos pays.
Oui, alors plusieurs idées en même temps. Albert Bourgi, on va les prendre peut-être une à une. Est-ce que vous partagez le point de vue de Doudou Dien sur une absence de lecture propre de l'Afrique par Barack Obama?
C'est vrai. Je crois avoir dit tout à l'heure, et ça rejoint grosso modo ce qu'ont dit nos collègues ici présents dans ce débat, c'est qu'il y a une continuité de la politique américaine, alors que tout le monde s'attendait précisément que cette administration Obama change les choses. Je crois que, au fond, ce qui se passe aujourd'hui, au-delà de ce qui a pu être dit, et je partage, hein, et qu'au fond, le discours d'Obama à Accra n'apportait rien de nouveau. Le discours d'Obama revenait tout simplement sur les grandes préoccupations, sans aller au fond des choses, aussi bien pour les conflits, qu'il a traité de la corruption, mais
ça aurait pu être un discours prononcé par le président de la Commission de l'Union européenne.
Oui, non, oui. Peut-être pas par le président de la Commission européenne, mais disons que c'était un discours très généraliste. C'était un discours très généraliste où il n'y avait pas d'intonation comparable à, bien évidemment, à celle qui figurait dans le discours du Caire, en direction du monde arabe, et d'une manière plus générale, en direction du monde musulman. Donc je crois que ça, c'est une vérité. Mais je pense que le fond des choses aujourd'hui, en ce qui concerne la politique africaine des États-Unis, c'est que ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Tout à l'heure, notre ami Chris Fumoniou a dit
que
Obama s'est
oui.
occupé de la politique intérieure américaine. Il y a des bien évidemment un certain nombre de dossiers très urgents qu'il traite depuis finalement son arrivée à la Maison Blanche, c'est vrai, mais en ce qui concerne l'Afrique, d'une certaine façon, on a même l'impression que, à la différence de ce qui se passait auparavant, notamment du temps de l'administration Bush, où nous avions des missionnaires vers l'Afrique, c'est-à-dire que c'était un discours idéologique très marqué, discours néoconservateur, et l'Afrique était devenue en fait une sorte de terrain de mission. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre.
C'est la présence américaine sous Bush, les missions.
Oui, mais c'est une terre de mission également, ouais. Un discours très, très, très engagé, mais dans une direction. C'était un petit peu le conflit du Darfour. C'était bien sûr là où il fallait redresser et éventuellement, parfois, amener l'Afrique à se ranger un petit peu sous la bannière, disons les choses comme elles sont, idéologico-religieuses. Là aussi, ça, c'est des choses qui sont apparues. Alors que dans le cas de l'administration, en tout cas Obama, depuis son arrivée, c'est un discours beaucoup plus indifférent, beaucoup plus incolore, et peut-être qu'on en attendait beaucoup trop, justement, de cette politique africaine d'Obama, tout simplement. On en attendait trop en oubliant que, d'abord, les États-Unis d'Amérique ont leurs propres préoccupations, et c'est vrai que, d'une manière générale, ils interviennent dans le cadre des organismes existants. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que, finalement, c'est un bi-régionalisme,
oui,
les États-Unis.
On va
On va y revenir. Les États-Unis d'Amérique, bon, c'est une fédération. C'est vrai qu'il y a des face-à-face Amérique-Afrique, Amérique-Asie, ce qu'on veut. Mais dans le cas, par exemple, dès l'instant où vous avez affaire à l'Union africaine, vous avez nécessairement une organisation, vous avez un cadre multilatéral. Et on s'adresse à ce cadre multilatéral, comme l'Union africaine ben, s'adresse aussi à un autre cadre multilatéral, cette fois-ci européen, et bien sûr également, on l'a vu, pour d'autres organisations d'Amérique latine. Mais je crois que le débat, il est ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, il s'agit de savoir si les États-Unis sont à même, et c'est ce qu'attendent en tout cas les Africains, de prendre en compte aussi les préoccupations de l'Afrique. L'Afrique a bougé, l'Afrique change. Et tout à l'heure, Doudou parlait d'une dynamique. Il y a une véritable dynamique positionnement de l'Afrique. Et il s'agit d'en faire un partenaire à part entière. Or, cela n'apparaît pas, c'est vrai, aussi bien dans le discours que dans l'action.
Y compris à travers des politiques économiques, y compris à travers l'AGOA.
Évidemment, on l'a vu, par exemple, pardonnez-moi juste un instant,
rapidement.
Des institutions financières internationales. Lorsque les revendications africaines, notamment d'élargissement de la part de l'Afrique dans le processus de décision au sein du conseil d'administration, je crois, du Fonds monétaire international, il n'y a pas eu de note différente de celle des autres pays occidentaux, mais de la part des États-Unis.
Oui, Christopher Faumonieux.
Oui, je crois que mes collègues ont soulevé beaucoup de points très intéressants. Je dirais d'abord qu'il y a un problème de style. Et autant le président Bush, et je crois que beaucoup de gens ont tendance à faire une comparaison directe entre Barack Obama et son prédécesseur. Et je dirais que autant Bush était très tranchant dans son style et même dans son discours, autant Obama est plus posé et plus nuancé. Et peut-être que cela se traduit aussi par la mise en place de la politique africaine de tout un chacun.
Oui, il y avait beaucoup plus d'activisme aussi, quand même, sous Bush que sous Obama.
Justement, parce que c'était le style Bush, il était activiste, non seulement sur la politique africaine, mais sur sa politique internationale et même domestique également. Donc, il a beaucoup fait pour l'Afrique à l'époque, AGOA, la politique de santé, la politique de sécurité, et il n'était pas nécessaire que Obama opère une rupture radicale juste pour le plaisir de le faire. Je crois que beaucoup d'Africains s'attendent à ce que Barack Obama puisse faire plus que ce que Bush avait fait et non pas forcément rompre avec ce que Bush avait fait, surtout si les Africains avaient estimé que Bush avait quand même eu un impact positif sur le continent. Je dirais aussi que il ne faut pas faire une comparaison entre ce que Obama a dit à Accra et ce que est son discours du Caire, parce que le problème entre les États-Unis et le monde arabe sont vraiment différents par rapport au problème entre aux priorités africaines. Donc, il était important qu'il tienne un discours différent au Caire par rapport à son discours d'Accra.
Oui, mais Christopher Faumonieux, il était normal qu'il fasse un discours différent à Accra qu'au Caire, ne s'adressant pas aux mêmes populations, mais en même temps, ce n'était pas nécessaire qu'il reprenne exactement tout ce qu'on entend depuis des décennies, la corruption, l'absence de démocratie, et l'Afrique qui doit travailler pour mériter la récompense des aides au développement.
Mais le problème, c'est que si on en parle et que les problèmes demeurent, il ne faut pas passer l'éponge sur des problèmes qui demeurent. La corruption, la malgouvernance, c'est des problèmes, des maux qui minent l'Afrique. Parce que, à mon avis, l'Afrique n'est pas un continent pauvre, c'est la mauvaise gestion de nos ressources africaines qui est à l'origine des difficultés que nous rencontrons sur le continent. En plus de cela, j'aimerais quand même qu'on discute d'un élément nouveau que Barack Obama avait évoqué à Accra et sur lequel je crois beaucoup d'Africains s'attendent à des résultats concrets, c'est la politique agricole. Mmh. À mon avis, c'est la première fois qu'un président des États-Unis qui a en face de lui des lobbies très puissants sur le plan interne en matière d'agricole voudrait faire quelque chose de très spécifique dans le domaine de la promotion de l'agriculture sur le continent africain. Et sur ça aussi, moi, j'attends des résultats concrets.
Qui commence par la baisse de subventions des agriculteurs américains, ce qu'il ne fera pas. En tout cas, ce qu'il ne fait pas pour le moment.
Mais comme il avait déjà évoqué ce point, je crois que c'est à nous autres, les Africains, et ceux qui travaillent sur le continent, de le prendre à la parole et de juger, effectivement, la mise en œuvre de cette politique qui pourra avoir vraiment des conséquences, un impact très positif en matière agricole sur le continent africain.
Merci, on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission, mais là, nous marquons une pause pour le journal.